ces relations, elles peuvent aussi te sauver la vie ou alors venir accentuer les symptômes, quoi. Les symptômes de détresse, d'angoisse, de dépression. C'est l'un ou l'autre.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses, les amitiés valsent, d'autres entrent dans la danse.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap, groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 8.
Ami, tu me gardes comme je suis. Mais le serpent siffle autour de ta douce effigie sympathique. On dit que ta valeur est éternelle, comme si tu régnais sur la vie et la mort, qui exhale son souffle lugubre comme lors d'un effondrement psychique pour t'éloigner de moi en raison de la disparition de l'esprit que tu connaissais. Mais est-ce moi qui suis tombé malade ou les torts sont-ils à partager? On dit beaucoup de choses sur toi. Entre autres, que tu n'étais plus là quand tout s'est écroulé autour de moi. On a tendance à s'en foutre. Tu étais aussi l'ami de quelqu'un d'autre. Depuis, ma folie a rencontré d'autres folies, avec qui on a des désordres communs. Mais le passé revient toujours au présent, paraît-il. Le futur le dira. Tanguy et Margot nous parlent de leurs sentiments et de leurs ressentiments.
J'ai fait une bouffée délirante il y a un an de ça, du coup. Ça a duré à peu près 2-3 mois, vraiment, le cœur de la bouffée délirante. Et après, ça a pris un peu de temps à rétablir et à me remettre, quoi. Avec le recul, je dirais qu'il y a eu 6 mois avant vraiment la bouffée délirante où j'ai commencé à avoir des symptômes qui sont apparus. C'était une période où je fumais beaucoup de cannabis. Enfin, même pas beaucoup, en fait, mais régulièrement, en tout cas. Avec la consommation, il y a eu des symptômes qui sont apparus, puis qui après qui sont devenus de plus en plus récurrents, de plus en plus intenses, mais moi je les identifiais pas comme des symptômes, en fait je pensais que c'était même que j'étais juste plus sensible à certaines choses, je pensais que j'étais, voire même je pensais que j'avais des pouvoirs à des moments, en fait. En arrivant à Paris, pour le coup, je me suis dit que j'allais arrêter le cannabis, mais en fait ça a pas suffi parce que j'ai encore eu des symptômes. Enfin, je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, dès que j'entendais une phrase dans la rue ou... J'avais l'impression que ça parlait de moi. Dans la conversation, j'avais l'impression que tout le monde parlait de moi. Et c'était de plus en plus présent. Je devenais complètement parano, en fait. Et sans cannabis, c'était de plus en plus difficile de suivre mes études. Et à un moment, j'ai carrément fait une dépression. Je me suis enfermé chez moi. Et là, pour le coup, j'ai eu la très bonne idée d'acheter de la drogue, enfin du cannabis. Et donc, j'ai fait que fumer. Et c'est là que ça, tout a commencé, là, en fait, que je suis vraiment parti en vrille et que ça a duré 2 mois, quoi.
Il y a eu un moment, j'étais quand même très fatiguée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'avais une opération de prévue, mais une opération complètement bénigne. Mais c'était en ambulatoire et il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher. Et elle m'avait dit, elle a bossé en indépendant, elle m'avait dit « Oui, bah, je réserve ma journée pour pas que tu te retrouves seule. » Très franchement, ça ne m'inquiétait pas, mais je me disais « Ouais, il faut faire attention, quoi. Je ne peux pas non plus me taper une heure et demie comme ça de transport après une opération, en sachant que c'est une clinique privée qui ne te garde pas. » Et il s'est trouvé que la veille de cette opération, j'ai eu un dégât des eaux. En gros, j'étais complètement virée de chez moi. Et que, genre peut-être 2 jours avant cette opération, elle m'a annoncé que finalement, elle avait accepté une mission. Et c'est là où j'ai dû trouver quelqu'un d'autre, en deux-deux, pour venir me chercher. Et c'était la personne chez qui je suis allée dormir. Dès le dimanche soir, l'opération était le lundi, parce qu'en même temps, j'avais le dégât des eaux. Donc c'était un peu chargé. Et il se trouve que cette opération s'est très très mal passée. Enfin, le réveil de l'opération, il s'est très mal passé. Quelque chose que j'aurais jamais imaginé. J'y allais très très à la cool. Et je suis ressortie, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Et moi, je me suis retrouvée dans un véritable cauchemar, quoi. Je me suis réveillée de cette opération dissociée. Ça m'est arrivé, mais quasi 20 ans auparavant. Hein. Ça ne m'était pas arrivé sinon. J'arrivais même pas à marcher, on m'a laissé sortir comme ça. Après, je me suis renseignée, je suis jamais retournée voir la clinique privée, mais je pense que c'est la kétamine, un anesthésiant qui crée ça et qui est quand même utilisé en intraveineuse, et c'est en intraveineuse. En tout cas, la kétamine, c'est clair et net, elle dissocie. Elle dissocie. Donc après, si la personne elle a vraiment un trauma à ce niveau-là, ça le réveille.
Moi, c'était des émotions très fortes déjà, des idées qui s'accélèrent beaucoup et du délire total. En fait, c'est à un moment où j'ai eu l'impression de commencer à parler par télépathie. Et donc, j'ai passé 2 mois à essayer de résoudre tous les problèmes qui se posaient suite à ça dans ma tête. Parce que j'avais l'impression d'être connecté avec le monde entier par télépathie, d'avoir plus aucune pensée pour moi. Et donc, que tout ce que je pouvais penser, ça allait vraiment dans tous les sens. Je passais par toutes les émotions. Des fois, je me sentais surpuissant, j'avais l'impression d'être une sorte de demi-dieu, quoi. Et d'autres fois où j'avais par exemple très 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 peur, enfin j'étais terrorisé pour des trucs de moi, de ma propre pensée en fait, enfin ça allait un peu dans tous les sens, mais c'était très intense.
Et l'ami en question, elle est passée vivre le soir, elle a vu que vu dans l'état où j'étais, elle allait pas pouvoir me ramener dans son appartement où il y avait 6 étages à monter, et je me suis retrouvée dans cet appart bloquée parce que je pouvais même pas sortir seule de cet appart dans l'état où j'étais. Et je me suis sentie mais complètement abandonnée, quoi. C'est violent de se prendre ça, quoi, parce que moi j'avais franchement l'impression d'être une machine à produire, quoi, d'être aimée tant que tu produis, tant que t'es un bon cheval, et le jour où tu te ramasses la gueule, tu vaux plus grand-chose, finalement. Et que cette amie en question, je voyais qu'elle elle recommençait en fait, ce genre d'acte. C'est-à-dire, dès que pour elle, c'est gênant, ou... Enfin, en fait, elle n'était pas là. Elle n'était clairement pas là. Je trouve ça tellement horrible. En fait, je ne peux pas comprendre ces actes. Alors, effectivement, je les condamne.
Avec mes amis, ça a été problématique. Pareil, quand je disais les 6 mois avant la bouffée délirante... où je commençais à avoir des symptômes, où en fait, là, je commençais à devenir assez colérique, assez agressif. Je me suis embrouillé avec pas mal de personnes, et même avec mon frère. Et donc, en fait, mes amis comprenaient pas trop ce qui se passait. Ils se disaient que je fumais trop de joints, mais ils voyaient pas plus que ça. Ils s'étaient jamais dit que je pouvais avoir des problèmes psy, en fait. Et donc, il y a eu plusieurs moments comme ça, un peu, où je disais des trucs très déplacés, où j'étais... où vraiment ils sentaient qu'il y a un truc qui allait pas, quoi, avec moi. Ils avaient pas forcément connaissance en fait des problèmes psy. Et en fait c'est au moment où j'ai fait ma bouffée délirante que là mes parents, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont alerté mes amis qui ont donc compris en fait ce qui se passait. Suite à ça j'avais un week-end de prévu avec mes amis donc qui sont venus, mais ils pouvaient rien faire pour moi en fait sur ce moment-là. Ils pouvaient tout juste me soutenir, mais moi j'étais vraiment ailleurs, j'étais vraiment pas réceptif. Donc à ce moment-là, ils étaient présents, donc ça m'a fait plaisir en fait. Mais ils pouvaient rien pour moi.
Et il y a une amie qui a réalisé, mais au bout de 4 jours, et elle s'est dit, mais il y a un problème, quoi. Enfin, elle est venue me voir et elle a constaté les dégâts et elle a pas compris, quoi. Elle a halluciné, quoi. Et, parce que pendant 4 jours, j'étais vraiment coupée en deux. Et ça a été vraiment un gros traumatisme. Et c'est là où ça a commencé. J'ai commencé à refaire des crises d'angoisse, des choses qui ne m'étaient pas arrivées depuis plus de 10 ans, tout ça. Je crois que voilà, si les amis se manifestent, enfin juste écouter et faciliter quoi, les choses, aider, ne serait-ce que dans nos urgences. Hein, c'est des trucs cons, mais... Voilà. Alors c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Donc une amie, c'est ce qu'elle a fait. Et enfin, je lui suis extrêmement reconnaissante. Elle est venue au petit matin, à 7h du mat. J'avais envoyé un texto dans la nuit sur Messenger. Je n'ai pas envoyé 10 000 des SOS. Hein. Quand je l'ai envoyé, c'est que je n'avais vraiment pas le choix. Et c'est elle qui s'est manifestée parce qu'elle avait une insomnie. Et elle arrivait à 7h du mat. Et à 7h du mat, on a organisé tout ça pour aller aux urgences. Tu vois. je me suis quand même pas mal isolée, quoi, parce qu'après, j'ai vraiment été dans la dépression, donc je me suis beaucoup isolée. Et puis, j'ai pas eu envie, en fait. J'ai vraiment pas eu envie de me créer forcément de nouveaux amis, quoi. J'ai vraiment eu besoin de m'isoler, au contraire. J'ai eu au moins 2 ans où j'ai arrêté. J'ai été extrêmement méfiante des gens. En fait, moi, ça m'a complètement... j'étais pas du tout comme ça, en fait. J'étais pas du tout quelqu'un de méfiant. J'ai pas envie de... Enfin, de m'investir dans une relation où je peux être déçue. S'il y a des choses où je vois que, voilà, moi, ça, je n'en veux plus, je coupe direct, en fait. Enfin, c'est pas... J'ai été consultée, je suis tombée sur une psychiatre avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et moi, c'était très dur pour moi parce que je me disais, qu'est-ce qu'on accepte et est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et j'étais très longtemps là-dedans. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, enfin, non, en fait, j'accepte pas ça. Et ça a été plein de petits actes comme ça, banals, mais très violents, en fait, très violents, parce que on peut pas faire comme si. On ne peut pas faire comme si c'était rien. En fait, je pense que l'amitié, ça fait aussi caisse de résonance avec la famille, avec ce qu'on a vécu enfant, et qu'il y a beaucoup de choses qui étaient enfants, des abus, injustes, tout ça, qu'en amitié, forcément, je suis très... c'est-à-dire, je vais faire très attention. Ma mère m'accepte que si je vais bien. Si je ne vais pas bien, mais voilà, je peux crever, je peux... Elle ne viendra pas, en fait. Elle ne lèvera pas le petit doigt. Et donc, forcément, je ne peux absolument pas aller vers des amitiés qui vont fonctionner de cette façon. Vas-y, tu peux crever la gueule ouverte. On s'en fout. Ça ne va pas. Enfin, en fait, si ça ne va pas, ce n'est pas notre problème, en fait. Si ça ne va pas, nous, on n'a pas de relation à avoir avec toi. Par contre, si ça va bien, si, ça peut nous intéresser. Et ça peut... Enfin, ce n'est pas ça peut. Ça me met hors de moi. Les personnes qui fuient. Ça, vraiment, je supporte pas. Enfin, j'ai pas envie, moi, d'être clémente avec ça et de donner raison.
Je me sentais très fatiguée, assommée. Ça, je pense qu'il y avait une part de l'après-choc, quoi. Et une part de médicaments aussi, qui essayaient de maintenir, de contenir les pensées. Je tenais pas du tout l'alcool, ça me mettait dans un état très désagréable, l'alcool. Et surtout, en fait, je me repliais sur moi-même et j'avais... Bah disons que je suis quelqu'un pas forcément très causant, et là c'était vraiment pire, quoi. Pendant toute la durée de l'hospitalisation, j'étais dans le déni total, et en étant hospitalisé à domicile, c'est là que j'ai commencé à, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, en fait, aussi grâce aux médecins qui m'ont permis de mettre des mots dessus, etc., et aux médicaments, je pense, qui m'ont aidé à redescendre. Et donc ça s'est fait progressivement que j'ai réussi à comprendre que j'avais fait en fait un épisode psychotique, ou enfin une bouffée délirante aiguë, comme on dit. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, du coup ça a été la dégringolade en même temps, grosse dépression, quoi. Je me suis beaucoup renfermé sur moi-même, et j'avais beaucoup de mal à ressortir, en fait, dès qu'il y a un contexte de relation sociale, en fait. Je me repliais sur moi-même et je le vivais très mal, en fait, quand je le retrouvais du monde. Dans un contexte social, c'était très difficile. Pendant des moments, je m'isolais, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que c'était important aussi. Et en fait, ils étaient compréhensifs, ils me soutenaient. Et mes amis ont été importants, je dirais, au cœur de ma crise, mais aussi pendant toute la phase de rétablissement, en fait, où ils étaient assez présents. Bah, rien que le fait de ne pas m'avoir lâché à ce moment-là, en fait, dans les moments où je n'utilisais plus rien, ou des choses comme ça, je suis reconnaissant. Avant, je me sentais un peu, enfin, dans ma phase où je partais en vrille, là, je me sentais un peu tout puissant, et donc j'avais besoin de personne, et je m'embrouillais avec les gens parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient tout mal, et que maintenant, j'ai compris que j'étais vulnérable. J'ai compris la valeur de mes amis quand ils étaient là, ils me proposaient encore des sorties, des choses, alors que moi j'allais pas bien. Et donc aujourd'hui, de pouvoir avoir ces gens-là avec moi et qui m'ont pas lâché quand ça allait pas, bah, je sais que c'est une force, quoi.
Et je voulais aussi dire, à l'HP, à l'hôpital psychiatrique, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre les gens. Enfin, moi qui m'étonne beaucoup. Et ça, ça va pas être l'avis de tout le monde. Donc là encore, c'est subjectif. Mais on peut pas vraiment parler d'amitié parce que les gens, bon, ils veulent aussi passer à autre chose. Donc ils vont pas forcément se revoir. Certains se revoient, peuvent pourquoi pas créer des amitiés sur le long terme ou pas du tout. Mais en tout cas, ce qui se crée sur les lieux, ce côté grande solidarité, entraide ou la mixité, on va beaucoup en parler dans notre société, elle n'a pas vraiment lieu, à mon sens. Mais alors là-bas, pour le coup, avec la sectorisation, ce sont des gens qui ne se rencontreraient pas du tout sinon, à part, je ne sais pas moi, aux arrêts de bus, aux arrêts de tram. Jamais ils n'auront à faire ensemble, c'est-à-dire dans le même cadre, avec les mêmes règles, qui sont dans les mêmes conditions, mais pour un temps. En sortant de l'hosto, tout le monde va retrouver un peu sa place. Hein. On va dire que ce sont des amitiés brèves pendant l'hospitalisation, mais qui sont extrêmement fortes, et je les trouve beaucoup plus fortes, en tout cas pour moi, que le rapport soignant-soigné. Et que s'il y a une thérapie, en tout cas, qui a vraiment lieu, je trouve que c'est entre les gens. Il n'y a plus de jugement, que ce soit les catégories sociales, que ce soit les différentes cultures, les différentes pathologies. Alors, je peux me planter, hein, mais je trouve quand même que c'est un sacré mélange. Il se passe vraiment quelque chose entre les gens et qui est assez magnifique, quoi.
Emmène-moi dans la nuit, absorbe la noirceur, imprègne-toi de la folie, d'un rire mu par la peur. Des caresses, des baisers, il ne reste que l'angoisse qui t'alite. Dans ce décor, la rosée t'enveloppe et te délite. Quant à la recherche absolue de l'ivresse, quête évolue de la jeunesse, que ta renaissance soit aussi divine que l'essence de tes origines. Enfonce-toi dans la nuit, absorbe la noirceur, imprègne-toi de la folie, d'un rire mu par la peur, des caresses, des baisers. Il ne reste que l'angoisse qui t'alite. Dans ce décor, la rosée t'enveloppe et te délite. Quant à la recherche absolue de l'ivresse, quête évolue de la jeunesse, que ta renaissance soit aussi divine que l'essence de tes origines.
À suivre, épisode 9, Les amants s'aiment, le trouble.